8. Elle demande à Hodges s'il veut bien l'excuser. Il lui dit que oui, bien sûr. Et elle disparaît, probablement pour reprendre ses esprits et se rafraîchir le visage. Hodges ramasse la lettre et commence à lire tout en continuant à boire son café. Toujours aussi délicieux. Ma foi, il ne dirait pas non à un petit biscuit ou deux. Chère Olivia Trelawney, j'espère que vous lirez cette lettre jusqu'au bout avant de la jeter ou de la brûler. Je sais que je ne mérite pas votre considération, mais je vous supplie de me l'accorder cependant. Car voyez-vous, je suis l'homme qui a volé votre Mercedes et écrasé tous ces gens. Et maintenant, je me consume comme peut-être cette lettre se consumera, mais de honte, de remords et de chagrin. Pitié, pitié, donnez-moi une chance de tout vous expliquer. Je sais que je n'obtiendrai jamais votre pardon, et ce n'est pas ce que je vous demande. Mais si seulement vous pouviez me comprendre, ce serait suffisant. Me donneriez-vous cette chance, s'il vous plaît? Je suis un monstre aux yeux du public. Pour les médias, je ne suis qu'un fait divers sanglant, utile commercialement parlant. Et pour la police, je ne suis qu'un autre criminel de plus à arrêter et à jeter en prison. Mais je suis aussi un être humain, tout comme vous. Voici mon histoire. J'ai grandi dans un foyer où régnait la violence physique et sexuelle. Mon beau-père fut le premier à abuser de moi. Et vous savez ce que ma mère a fait quand elle l'a su? Elle s'est jointe à la fête. Avez-vous déjà cessé de lire? Je ne vous en voudrais pas. C'est répugnant. Mais j'espère que vous êtes encore là, car il faut que je me libère de ce poids. Je risque de quitter le monde des vivants dans pas longtemps, voyez-vous. Mais je ne peux pas partir sans expliquer à quelqu'un pourquoi j'ai fait ça. Non pas que je me l'explique complètement, mais peut-être que vous, en tant que personne extérieure à la situation, saurez le faire. C'est ici que Mr. Smiley faisait son apparition. Les violences sexuelles ont continué jusqu'à ce que mon beau-père meure d'une crise cardiaque quand j'avais 12 ans. Ma mère disait que si j'en parlais à qui que ce soit, je serais tenu pour responsable. Que si je montrais aux gens les cicatrices de brûlures de cigarettes que j'avais sur les bras, les jambes et les parties génitales, elle dirait que c'était moi qui l'avais fait. Je n'étais qu'un enfant et je pensais qu'elle disait la vérité. Elle disait aussi que si les gens me croyaient, elle devrait aller en prison et moi je serais envoyé dans un orphelinat, ce qui était probablement vrai. Alors, je n'ai rien dit. Quelquefois, le diable connu vaut mieux que le diable qui reste à connaître. J'ai arrêté de grandir assez tôt, et j'étais un garçon très maigre. Je ne mangeais pas beaucoup car j'étais trop anxieux. Et quand je mangeais, je vomissais souvent, boulimie. D'où les persécutions que je subissais à l'école. J'ai aussi commencé à avoir des tics nerveux, comme tripoter mes vêtements et me tirer les cheveux. Je m'en arrachais à pleine poignée des fois, ce qui déclenchait les rires. Pas seulement des autres enfants, mais aussi de mes professeurs. Janet Patterson est revenue. Elle boit son café en face de lui, mais c'est à peine si Hodges remarque sa présence. Il repense aux 4 ou 5 interrogatoires auxquels Pete et lui ont procédé avec Mrs. T. Il se souvient de la manière dont elle rajustait toujours son encolure, ou tirait sur sa jupe, ou la façon qu'elle avait de porter les doigts au coin de sa bouche pincée comme pour essuyer un excès de rouge à lèvres, ou d'enrouler une mèche de cheveux autour de son doigt et de tirer dessus. Oui. Ça aussi. Il reprend sa lecture. Je n'ai jamais été un mauvais garçon, Madame Trelawney. Je vous le jure. Je n'ai jamais torturé d'animaux ou frappé d'autres enfants encore plus petits que moi. J'étais aussi discret qu'une petite souris, essayant tant bien que mal de survivre à mon enfance en évitant les moqueries et les humiliations. En vain. Je voulais aller à l'université, mais ça m'a été refusé. C'est que, voyez-vous, je devais m'occuper de la femme qui m'avait maltraité toute mon enfance. C'en est presque comique, vous ne trouvez pas? Maman a fait une attaque, sûrement à cause de l'alcool. Car oui, ma mère est aussi alcoolique. Ou l'était, quand elle pouvait encore aller s'acheter ses bouteilles elle-même. Elle peut encore marcher un peu, mais très peu. Je dois l'aider à aller aux toilettes et l'essuyer une fois qu'elle a fait ses besoins. Je travaille toute la journée pour un salaire de misère. Je sais qu'en ces temps de crise, je devrais m'estimer heureux ne serait-ce que d'avoir un emploi. Puis, je rentre à la maison pour m'occuper d'elle, car tout ce que je peux me permettre, c'est de faire venir une garde-malade quelques heures par semaine. C'est une vie lamentable et stupide. Je n'ai pas d'amis et aucune possibilité d'évolution dans mon travail. Si nous vivons dans une ruche, alors je ne suis qu'un pauvre malheureux bourdon. Au bout du compte, j'ai fini par ressentir de la colère. Je voulais que quelqu'un paye. Je voulais me venger et montrer au monde que j'existais. Pouvez-vous comprendre cela? Avez-vous déjà ressenti ce besoin? Sûrement que non. Avec tout l'argent que vous avez, vous devez avoir les meilleurs amis que l'argent peut acheter. Juste après cette pique, il y a un autre smiley à lunettes, comme pour dire « je rigole ». Et un jour, la coupe a été pleine et j'ai fait ce que j'ai fait. Je ne l'avais pas prémédité. Mon cul, pense Hodges. Et je pensais avoir 50% de chance de me faire arrêter. Je m'en fichais. Et je ne me doutais absolument pas à quel point tout ça me hanterait par la suite. Je continue à revivre le choc sourd de l'impact et à entendre leurs cris. Mais c'est quand j'ai vu les informations et que j'ai appris qu'une des victimes était un bébé que j'ai pris conscience de l'acte terrible que j'avais commis. Je ne sais même pas comment j'arrive à me regarder dans la glace. Madame Trelawney, pourquoi, oh pourquoi avez-vous laissé votre clé sur le contact? Si je n'avais pas trouvé votre voiture un matin alors que je n'arrivais pas à dormir, rien de tout ceci ne serait arrivé. Si vous n'aviez pas laissé votre clé sur le contact, ce petit bébé et sa mère seraient toujours en vie. Je ne vous accuse nullement. Je suis sûr que vous deviez avoir vos propres problèmes et préoccupations, mais j'aurais seulement souhaité que les choses se passent différemment. Et si vous n'aviez pas oublié votre clé sur le contact, elle se serait passée différemment. Et je ne serais pas en train de brûler dans cet enfer de culpabilité et de regret. Vous devez vous sentir coupable aussi, et pleine de remords, et j'en suis désolé, car vous allez très vite vous rendre compte à quel point les gens peuvent être cruels. La télé et les journaux vont parler de la négligence dont vous avez fait preuve et qui a rendu possible l'horreur que j'ai commise. Vos amis arrêteront de vous parler, la police vous harcèlera. Quand vous irez faire vos courses, les gens vous dévisageront en chuchotant. Certains ne se contenteront pas seulement de chuchoter, ils vous agresseront verbalement. Je ne serai pas surpris que l'on vandalise votre maison. Alors, dites à vos agents de sécurité, je suis sûr que vous en avez, d'être sur leur garde. J'imagine que vous n'aurez aucune envie de discuter avec moi, n'est-ce pas? Oh, pas face à face, mais il y a un endroit sûr, pour vous et moi, où l'on pourrait discuter via nos ordinateurs. Ça s'appelle « Sous le parapluie bleu de débit ». Je vous ai même créé un compte si jamais vous aviez envie d'essayer. Le nom d'utilisateur est Otterlow19. Je sais ce que le commun des mortels ferait à porter cette lettre directement à la police. Mais laissez-moi vous poser une question. Qu'ont-ils fait pour vous, à part vous traquer comme une bête et vous causer des insomnies? Ceci dit, si vous me voulez mort, il vous suffit de donner cette lettre à la police. Cela me tuera aussi certainement que me mettre un revolver sur la tempe et appuyer sur la détente. Car c'est moi qui me supprimerai. Aussi fou que cela puisse paraître, vous êtes la seule personne qui me relie à la vie. Car vous êtes la seule personne à qui je puisse parler. La seule personne qui sache réellement ce que ça fait que de brûler en enfer. Je vais maintenant patienter. Madame Trelawney, je suis tellement, tellement, tellement désolé. Hodges repose la lettre sur la table basse et dit « Putain de merde !» Janet Patterson hoche la tête. « C'est à peu près la réaction que j'ai eue. » Il l'a invité à entamer une conversation Internet. Janet lui lance un regard incrédule. « Invité ? Essayez plutôt forcer. Faites-le ou je me tue. » Donc, à votre avis, elle l'a pris au mot. Avez-vous eu accès à ces échanges? Peut-être a-t-elle imprimé quelques-unes de leurs conversations? Elle secoue la tête. Holly avait confié à ma mère qu'elle chattait avec un homme très perturbé, comme elle disait, et qu'elle essayait de le convaincre de se faire aider, car il avait commis une chose terrible. Ma mère était inquiète. Elle en avait déduit que Holly discutait avec cet homme très perturbé en face à face, dans un parc ou un café, vous voyez. Elle a bientôt 90 ans. Elle sait ce qu'est un ordinateur, mais elle n'est pas très informée de leur utilisation. Holly lui a expliqué ce qu'on faisait sur les réseaux sociaux, du moins essayé. Mais je ne suis pas sûr que maman ait réellement compris. Ce qu'elle a retenu, c'est que cet homme très perturbé et Holly discutaient sous un parapluie bleu. Votre mère a-t-elle fait le lien entre cet homme, la Mercedes volée et le massacre du City Center? Elle n'a jamais rien dit qui puisse me le faire penser. Sa mémoire à court terme commence à lui faire faux bond. Si vous la questionnez sur Pearl Harbor, elle est capable de vous dire exactement quand elle a entendu la nouvelle à la radio et probablement qui était le journaliste. Demandez-lui ce qu'elle a pris au petit déjeuner ou même où elle se trouve. Jeanne hausse les épaules. Peut-être qu'elle pourra vous le dire, peut-être pas.
Et où est-elle exactement?
Un endroit qui s'appelle Beau Soleil, à une cinquantaine de kilomètres d'ici.
Elle rit. Un rire triste, rien de joyeux là-dedans.
À chaque fois que j'entends ce nom, ça me fait penser à ces vieux mélodrames qui passent sur Turner Classic Movies, où l'héroïne déclarée folle est enfermée dans un de ces horribles asiles de fous pleins de courants d'air.
Elle tourne la tête en direction du lac.
Son visage a pris une expression que Hodges trouve intéressante, à la fois pensive et sur la défensive. Plus il la regarde, et plus il aime la regarder. Les légères rides au coin de ses yeux suggèrent que c'est une femme qui aime rire. « Je sais qui pourrait jouer dans un de ces films, » dit-elle, le regard toujours tourné vers le lac et les bateaux. « La sœur machiavélique, qui hérite de la garde d'une vieille mère sénile et d'une montagne de fric. La sœur cruelle, qui garde l'argent, mais envoie la vieille dans une résidence sordide où les pensionnaires ont de la pâtée pour chien pour dîner et croupissent toute la nuit dans leur urine. » Mais Beau Soleil n'est pas comme ça. C'est un endroit très agréable, et pas donné non plus. Et c'est maman qui a demandé à y aller.
Ah ouais?
Ouais, dit-elle en retroussant le nez pour se moquer de lui. Vous vous souvenez peut-être de son infirmière? Mrs. Green, Althea Green.
Hodges se surprend à fouiller dans la poche de son veston à la recherche d'un carnet qui n'est plus là. Mais après un effort de réflexion, il se souvient de l'infirmière sans le secours d'aucun carnet. Une grande et imposante femme, qui semblait glisser plutôt que marcher, avec une masse de cheveux gris bouffants qui lui donnait un petit air de ressemblance avec Elsa Lanchester dans « La fiancée de Frankenstein ».
Hodges et Pitt lui avaient demandé si elle avait remarqué la Mercedes de Mrs. Trelawney garée le long du trottoir quand elle était partie ce soir-là. Elle avait répondu qu'elle en était quasiment sûre, ce qui aux yeux de l'équipe Hodges et Huntley voulait dire qu'elle n'était pas sûre du tout.
Oui, je m'en souviens.
Elle a posé sa démission dès que j'ai quitté Los Angeles pour venir m'installer ici. Elle disait qu'à l'âge de 63 ans, elle ne se sentait plus capable de s'occuper comme il se doit d'une personne souffrant de handicap aussi lourd. Et elle n'en a pas démordu, même quand je lui ai proposé d'engager un aide-soignant. Deux s'il le fallait. Je pense qu'elle était horrifiée par tout le bruit qu'avait fait le massacre du City Center. Mais si ça n'avait été que ça, elle serait peut-être restée.
Vous pensez que le suicide de votre sœur a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase?
Oui, j'en suis pratiquement sûr. Je ne dirais pas qu'Althea et Holly étaient les meilleures amies du monde, mais elles s'entendaient bien, et leur façon de s'occuper de maman fonctionnait à merveille. Mais maman est mieux à Beau Soleil dorénavant. Elle se sent rassurée d'être là-bas, du moins dans ses bons jours. Et moi aussi. Ils savent soulager ses douleurs mieux que moi.
Et si je me rendais là-bas pour lui poser quelques questions?
Il se peut qu'elle se souvienne de certaines choses, tout comme il se peut qu'elle ne se souvienne de rien.
Elle se détourne du lac pour le regarder dans les yeux.
Vous êtes intéressé? J'ai vérifié les prix des détectives privés sur Internet et je suis prête à vous payer bien plus. 5 000 $ la semaine, plus les frais. Pour 8 semaines minimum.
40 000 $ pour un boulot de 8 semaines, s'émerveille Hodges. Peut-être qu'il pourrait être Philip Marlowe, après tout. Il s'imagine dans un deux-pièces miteux donnant sur le couloir du troisième étage d'un immeuble de bureau tout aussi miteux. Il aurait une secrétaire sexy, avec un nom comme Lola ou Velma. Une blonde qui n'aurait pas sa langue dans sa poche, bien sûr. Les jours de pluie, il porterait un trench coat et un borsalino marron légèrement incliné sur un côté du front. Ridicule. Et pas du tout ce qui l'attire. Ce qui l'attire, c'est de ne pas se retrouver dans son lazy boy à regarder la juge à la télé en se goinfrant de saloperie. Il aime aussi porter son costume. Mais il y a plus. Il a quitté le bureau en laissant des affaires en suspens. Pete a identifié le braqueur des prêteurs sur gage et il semblerait que lui et Isabel James soient sur le point d'arrêter Donald Davis, le minable qui avait tué sa femme et sorti ensuite son plus beau sourire pour la télé. Tant mieux pour Pete et Izzy. Mais il y a un plus gros poisson affairé que Davis ou le braqueur au fusil à pompe. Et puis, se dit-il, Mr. Mercedes aurait dû me laisser tranquille, tout comme il aurait dû laisser Mrs. T tranquille. Bill ? Janet claque des doigts comme un hypnotiseur de cabaret sortant un volontaire de sa transe. Vous êtes toujours avec moi, Bill ? Il revient à elle, cette femme à la quarantaine passée, qui ne craint pas de se tenir en plein soleil. Si j'accepte, vous m'embaucherez en tant que consultant en sécurité ? Elle a l'air amusée. Comme les hommes de Vigilant Guard Service qui travaillent pour Sugar Heights ? Non, rien à voir. Eux sont rattachés à une entreprise pour commencer, pas moi. Et je ne l'ai jamais été, se dit-il. Je serai indépendant, un peu comme ces gars qui font la sécurité dans les boîtes de nuit. Rien que vous puissiez déduire de vos impôts, j'en ai bien peur. Son air amusé se change en sourire et elle retrousse le bout de son nez comme tout à l'heure. Une manie plutôt ravissante, selon Hodges. Aucune importance. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, je roule sur l'or. J'essaie juste d'être le plus transparent possible avec vous, Janet. Je n'ai pas de licence de détective privé, ce qui ne m'empêchera pas d'aller poser des questions. Mais sans un signe ni mandat de perquisition, je ne peux rien vous garantir. C'est comme si vous demandiez à un aveugle de traverser la ville sans son chien. Vous devez bien avoir des contacts, non ? En effet. Mais si j'essayais de les utiliser, je nous mettrais, mes camarades et moi-même, en très mauvaise posture. Qu'il ait déjà asticoté Pete pour obtenir des renseignements n'est pas quelque chose qu'il a envie de partager avec elle aussi rapidement. Il reprend la lettre que Janet lui a montrée. D'une part, je me rends coupable de dissimulation de preuves si j'accepte de garder ça entre nous. Qu'il détienne déjà une lettre similaire par-devers lui n'est pas non plus quelque chose qu'elle a besoin de savoir. Théoriquement, du moins. Et la dissimulation de preuves est un délit. Elle a l'air choquée. Oh mon Dieu ! Je n'avais pas pensé à ça. D'autre part, je doute que la police scientifique nous soit d'une grande aide. Une lettre, qu'elle soit déposée sur Marlborough Street ou L'Obrier Avenue, est la chose la plus anonyme qui soit. Il fut un temps, et je m'en souviens très bien, où l'on pouvait faire concorder la dactylographie d'une lettre avec la machine qui l'avait écrite, si on arrivait à retrouver la machine, bien entendu. C'était aussi efficace que des empreintes. Mais cette lettre n'est pas dactylographiée ? Non, imprimante laser. Donc pas de A penché ou de T tordu. Ce qui veut dire que techniquement, je ne dissimulerai pas grand-chose comme preuve. Bien sûr, la dissimulation de preuves reste de la dissimulation de preuves. J'accepte votre proposition, Janet. Mais 5 000 $ la semaine, c'est de la folie. 2 000 suffiront. Vous pouvez me faire un chèque si vous voulez. Et je vous facturerai mes dépenses. Mais c'est dérisoire. Si j'arrive à quelque chose de concluant, on pourra discuter d'une prime. Mais il ne l'acceptera probablement pas, même s'il arrive à faire tomber Mr. Mercedes. Vu qu'il s'est présenté ici déjà déterminé à enquêter sur ce salaud et prêt à amadouer Mrs. Patterson pour qu'elle entre dans son jeu. D'accord, entendu. Et merci. C'est moi. Maintenant, parlez-moi de la relation que vous aviez avec votre sœur. Tout ce que je sais, c'est que vous étiez en assez bons termes pour l'appeler au lit, mais j'ai besoin de plus. Ça peut prendre du temps. Voulez-vous un autre café ? Peut-être un gâteau ou deux avec ? J'ai des biscuits au citron. Hodges accepte volontiers les deux.